Rémy de Gourmont, celle qu'on ne peut pas pleurer. Il pleurait celle que l'on ne peut pas pleurer, celle que l'on ne peut pas avouer. La morte, dont le nom et dont le souvenir appartiennent à un autre. Lui seul souffrait peut-être. Il était forcé de sourire, d'écouter des anecdotes et d'en compter lui-même, et de ne ménager ni les sous-entendus, ni les insinuations, ni les perfidies, car il voulait garder son secret. Il pleurait, mais les larmes lui tombaient dans la gorge et non sur les joues. Il avalait, comme un damné dantesque, un fleuve de douleurs intarissables et empoisonnées. Deux ou trois fois, en voulant faire une délicate et discrète grimace de surprise, il sentit que sa face se contractait et que sa gorge se soulevait. Il lui fallut la surhumaine force de l'amour pour ne pas éclater en sanglots, troubler une cérémonie décente par le scandale, par le ridicule. On suivait le corps le long d'un petit chemin bordé de sapins, d'une tristesse convenable, d'une désolation modérée, et à mesure que l'on approchait du cimetière, les conversations s'apaisaient, tombaient, comme les bruits d'une forêt avant l'orage, comme les murmures d'un troupeau à la porte de l'abattoir. L'inquiétude peu à peu imposa le silence, et la foule entra dans la ville morte avec la peur de n'en pas sortir. Lui, cependant, soutenait en angoisse son rôle d'indifférent. Il se donnait l'air de lire avec soin les vaines inscriptions imposées à l'insensibilité des marbres. Les espérances graves, là, le révoltaient par leur candeur, par leur hypocrisie. L'éternelle survie des âmes ne remet en lui aucun levain de désir. Il n'y croyait pas, et il n'en voulait pas. Toutes les formalités subies et pendant que, délivrés et joyeux, les gens redescendaient à grands pas, se précipita par convenance et aussi par amitié au mari, le vieux marquis de V, afin de lui serrer la main en proférant quelques banalités attendries. « Oh, je vous attendais, mon ami, » dit Monsieur de V. « Soyez celui qui ne me donnera pas, me donnera le bras et me reconduira chez moi. Venez, je vous en prie, sauvez-moi des importuns. » Faisant un signe d'adieu, Monsieur de V s'éloigna avec le compagnon de deuil et de confidence qu'il venait de se choisir. « Allons, et soutenez-moi bien, » poursuivit le vieux marquis. « Je suis brisé. Il me semble que je viens d'atteindre 100 ans. Tout ce qui me restait de force et de vie est encloué dans ce cercueil. Comprenez-vous cela, que c'est moi qui l'enterre ? Elle qui est désert, comme une respectueuse fille, me ferme les yeux et consolée d'un baiser suprême, mes tempes froides, ah, mon ami. Vous me restez, vous, au moins. Vous ne m'abandonnerez pas, dites. Vous ne pourriez pas. Oh, je sais que vous ne le pouvez pas, car je suis le seul à qui il vous a permis de parler d'elle, le seul auprès de qui vous puissiez pleurer, car je n'ignore rien, et tout ce qui est arrivé, non seulement je l'ai supporté, mais je l'ai voulu. Et, écoutez-moi bien, l'adultère de ma femme a été la rédemption de mon mariage. Quand je l'épousais il y a 6 ans, j'étais déjà plus que l'ombre d'un homme, Je l'avais parfaitement impuissant à lui donner les plaisirs qu'attendus. Alors je la condamnais donc à une sorte de veuvage hideux et ben humiliant. Humiliant parce que, dans son ignorance, elle pouvait se croire méprisée, et hideux parce que, si j'avais renoncé à la possession de la Vierge qui m'était livrée, je n'avais pas renoncé au libertinage et aux amusements qu'un vieillard peut tirer d'une créature douce et innocente. Mais, marié et dans le seuil de la chambre nuptiale, j'eus honte de l'abjection de mes désirs. J'entrai, et toute ma volupté fut de caresser un instant les beaux et doux cheveux blonds, et de bander le lit de ma femme, comme les mères font de leurs fillettes. Elle fut sans doute fort surprise, surtout plus tard, lorsqu'elle connut le secret dont je ne pouvais lui donner le mot. Le mot, elle l'a reçu de vous. Je vous en dirai le jour et peut-être l'heure, si vous les aviez oubliés. Souvenez-vous de la tendresse de mon accueil ce jour-là, et de votre embarras, et de vos mensonges, et de vos rougeurs. Enfant, enfant, avouez que vous aviez peur, et vous aussi qu'en même temps vous jouissiez délicieusement. Mais j'étais si peu dupe, mon cher ami, que j'arrangeais moi-même vos rendez-vous, prenant bien soin de vous prévenir à l'avance de mes absences et de mes retours. Souvent, afin de vous maintenir en amour et en désir, je contrariais vos rencontres projetées, ou bien je restais une semaine entière à la maison, sans bouger, exigeant, pour un malaise simulé. La constante présence de la lyre, triste Antoinette, ah, j'ai été bien paternel, et vous me devez bien de la reconnaissance. Sans mes ruses, vous seriez peut-être brouillé au bout de 3 mois, et sans ma prévoyance, vous n'auriez pas trouvé au bout du parc ce charmant pavillon de chasse où tout le monde croyait que je me reposais l'après-midi, et je vous serais laissé si tranquille pendant tant de belles nuits d'été. Mon devoir était de donner à ma femme les plus élémentaires joies de la vie. Incapable par moi-même, j'en facilitais la tâche à celle qui me sembla digne de ce rôle. Elle est bien remplie. Elle vous a aimé jusqu'à sa dernière minute, prononçant encore votre nom dans la conscience de l'agonie. Tous les deux vous êtes conduits dignement. Votre discrétion fut parfaite. Je suis sûr que la marquise de V est morte avec la réputation d'une épouse héroïque et fidèle. Héroïque, oui, car elle me fait toujours bon visage, pliée à ma volonté et à mes manies de vieux garçon. Fidèle, car notre seul homme lui laissa baisa ses genoux. Ils arrivèrent à la maison de Monsieur de V et montèrent tout droit à la chambre de la marquise. Je ne fus rien de plus pour elle, je vous le répète, continua Monsieur de V. Rien de plus qu'un père indulgent. Je viens de perdre ma fille, et vous, vous pleurez votre femme. Ce que penserait le monde de moi si cette aventure lui était connue, ou faut que je le sais, il me mépriserait. Et ce que vous en pensez, vous, madame, je ne vous demanderai pas. Que m'importe. Je suis toujours regardé comme un homme libre. Libre des préjugés et libre des devoirs négatifs. Il y a des hommes qui montent d'un échelon en acceptant le respect des conventions sociales. Moi, je descendrai. Quel que soit le degré d'immoralité conventionnelle dont un honnête homme soit Sot, ça serait ma conduite. Je juge, non pas d'une moralité très haute et même absolue, et je puis, fièrement et douloureusement, embrasser dans la chambre de ma femme morte celui que moi-même je fis son amant. Pleurez, pleurez, mon ami, jouissez de toutes les affreuses délices de la douleur. Pleurez celle que, hors d'ici, vous ne pouvez pas pleurer. Tenez, ces bijoux, ces dentelles, ces souliers, ces robes, il en manque une, sa robe de noces, celle qu'elle portait le jour où elle se donna à vous, elle est couchée avec elle, là-bas.